Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous au 3210. Ce soir, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Olivier Véran. Le ministre de la Santé sera notre invité de 18h15 au moment où la 5e vague de l'épidémie s'installe. Nous allons balayer tous vos sujets d'interrogation. Est-ce que Noël est menacé? Est-ce qu'il faut craindre de nouvelles restrictions? Quid de la 3e dose pour tous? Quid de la vaccination des enfants? Toutes les réponses dans un quart d'heure et bien entendu dans On refait le monde avec Éric Brunet dans un peu plus d'une heure. On prolongera le débat. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La fin du temps des menaces. Paris ouvre la voie à des indemnisations pour les pêcheurs qui n'obtiendront pas leur licence britannique. Certains s'y résignent déjà, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, sondage en Berne, déplacement compliqué, la mauvaise passe d'Éric Zemmour et puis une mobilisation qui se met en place dans le monde du tennis après la disparition d'une joueuse chinoise. Les courses dans le Quintet Plus à Fontainebleau, il fallait jouer le 4, l'As, le 15, le 5 et le 2.
18h40. On va défaire le monde. 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signé, la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le programme du jour.
Ce soir, on vous explique tout sur le protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant. Cette nouvelle tendance qui fait des ravages chez les jeunes. Au menu également, le tout premier préservatif unisexe et des bikers à la sortie des écoles pour intimider les harceleurs.
Et puis des points réguliers sur le temps avec vous. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance?
Tendance pour demain, gris sur un tiers nord, ensoleillé dans le sud.
Le détail dans quelques instants.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Il est donc notre invité ce soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, invité exceptionnel de RTL Soir, à l'heure où la France est confrontée à une 5e vague du Covid.
Et on va faire le point ce soir, un état des lieux sur la situation. Bonsoir Agathe Landé.
Bonsoir.
D'abord, que disent les chiffres de l'épidémie précisément?
Eh bien, tous les indicateurs sont à la hausse. Les entrées à l'hôpital et en réanimation augmentent depuis début novembre. Le taux d'incidence nationale est supérieur à 100 cas pour 100 000 habitants, c'est 2 fois le seuil d'alerte. Ces 7 derniers jours, on dénombre 12 500 nouveaux cas quotidiens en moyenne. C'est une hausse de 38% par rapport à la semaine précédente.
Mais tous ces chiffres, Agathe, sachant que les tests ne sont plus remboursés depuis un mois, ils sont fiables?
Eh bien oui, déjà parce qu'on réalise toujours 2 millions de tests par semaine et ensuite parce que ce sont surtout des non-vaccinés sans symptômes qui se déplacent moins. La baisse concerne donc surtout des tests dits de confort. Les non-vaccinés avec des symptômes, eux, continuent bien à se faire dépister.
Tiens, justement, on compte combien encore de non-vaccinés?
Exactement, 6,5 millions de personnes en France n'ont toujours pas reçu une doses de vaccins. Parmi eux, 521 000 personnes ont plus de 80 ans et 700 000 ont entre 65 et 79 ans. Cela représente donc 1,2 million de non-vaccinés, très à risque de développer des formes graves.
L'enjeu, c'est la 3e dose en ce moment. On en est où là ?
Alors en ce moment, la dynamique est franchement plutôt bonne. On réalise en moyenne 150 000 rappels par jour. Au total, 4,8 millions de personnes ont reçu leur rappel, qui doit se faire, on le rappelle justement, 6 mois après la 2e injection. Sont éligibles aujourd'hui les soignants, les plus de 65 ans, ceux qui ont reçu le vaccin Janssen et toutes les personnes, même jeunes, qui souffrent de comorbidité. Si vous avez entre 50 et 64 ans, vous pouvez d'ailleurs déjà prendre rendez-vous à partir du 1er décembre.
Des lieux complets, signé Agathe Landé pour RTL, alors qu'en Allemagne, un nouveau record de contamination aujourd'hui, plus de 65 000.
Est-ce déjà un aveu d'échec? Après avoir menacé Londres de mesures de rétorsion, eh bien le gouvernement a présenté aujourd'hui un plan d'indemnisation pour les pêcheurs.
Pour ceux, en effet, qui n'auront pas obtenu de licence pour pêcher dans les eaux britanniques et qui devront envoyer remiser leur navire, 40 à 60 millions d'euros annoncés. Bref, fin du match pour le vice-président du comité des pêches des Hauts-de-France, Stéphane Pinto.
On ne peut plus travailler dans les eaux anglaises, on n'a plus capacité à rentabiliser les entreprises. Ben, s'il y en a qui souhaitent quitter la profession, comme c'est mon cas, parce que j'ai un bateau de 12 mètres, je fais vivre 4 familles et que, ben, on a perdu un peu plus de 50% du chiffre par rapport au Brexit. Aujourd'hui, ben, moi, ma seule solution va être de dire que ben, j'abandonne mon navire et puis voilà, tout simplement. Il va falloir aussi trouver une solution pour qu'ils puissent avoir une compensation à hauteur de la perte d'exploitation et un peu tout ça, quoi.
Stéphane Pinto du comité des pêches des Hauts-de-France, joint pour RTL par Mourad Djabari. Jacques Chirac l'avait théorisé, Éric Zemmour l'expérimente en ce moment même. Les ennuis, pour être poli, ça vole en escadrille.
Sondage en Berne, procès, mais aussi déplacement compliqué à l'étranger. Marie Mollet, le polémiste, toujours pas candidat, on le rappelle, vient de se voir claquer la porte au nez à Londres notamment.
Oui, il s'imaginait à la tribune de la prestigieuse Royal Institution. Finalement, pour sa conférence de demain, ce sera un hôtel Ibis. Le polémiste s'est fait planter 48 heures avant le rendez-vous. La Royal Institution, une société savante anglaise, a jugé renseignement pris que sa venue aurait fait tâche. Alors Éric Zemmour n'est pas welcome à Londres, c'est ce que pense en tout cas le maire de la ville, Sadiq Khan, qui s'est chargé de faire passer le message. C'était tout à l'heure en conseil municipal.
Je veux être clair, la force de notre ville, c'est sa diversité. Alors ceux qui souhaitent diviser nos communautés et inciter à la haine pour des histoires de couleur de peau ou de religion ne sont pas les bienvenus.
Et avant Londres, c'est Genève qui a également fait entendre sa voix. Éric Zemmour doit y aller la semaine prochaine pour lever des fonds. Mais là-bas, le maire a déjà refusé de lui prêter une salle communale. Les équipes du polémiste dénoncent une censure, une entrave à la liberté d'expression. Et ces déboires font doucement rire chez Marine Le Pen. Commentaire gourmand d'un cadre RN, il paye cher ses condamnations pour provocation à la haine. En France, tout le monde s'en fiche, mais à l'étranger, ça fait très peur.
Explication signée Marie Mollet du service politique d'RTL. La proposition de loi sur la maltraitance animale définitivement adoptée aujourd'hui. Le texte prévoit l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums, mais aussi la fin de la vente de chiots ou de chatons en animalerie.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL, au cœur d'un lieu destiné aux victimes de harcèlement scolaire. Près d'un élève sur 10 est concerné en France. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier.
RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. La suite de votre journal, 18h08 sur RTL. Nous ne lâcherons rien. La promesse ce matin d'Emmanuel Macron en cette journée de lutte contre le harcèlement scolaire.
Dont serait victime près d'un élève sur 10. Le chef de l'État qui plaide pour une amélioration du contrôle parental, mais aussi pour une multiplication des lieux d'écoute. Écoutez, c'est justement l'ambition de la maison de Marion, du nom de Marion Fraisse, qui s'était suicidée à l'âge de 13 ans. Après l'Essonne, un deuxième site vient d'ouvrir aujourd'hui à Paris et vous vous y êtes rendue pour RTL, Marie Guerrier.
Au sixième étage d'un petit immeuble du 13e arrondissement, Nora Fraisse, la maman de Marion, fait visiter cette nouvelle maison financée par la mairie de Paris.
C'est un ancien appartement. Le bureau des psychologues, c'est vraiment des chambres qu'on a réhabilitées. Et dans la cuisine, c'est le cœur et on mange tous ensemble le midi avec les équipes et les familles quand elles viennent.
Des familles qui trouve ici conseil et soutien.
Parce que souvent les parents nous appellent comment je monte un dossier, comment j'appelle le référent académique. Le suivi psychologique, il est essentiel et c'est gratuit. Il y a beaucoup d'enfants qui décrochent, donc nous on va les raccrocher.
La maison de Marion accueille aussi les harceleurs.
C'est à force d'aller dans les écoles et de me rendre compte qu'en fait parmi les harceleurs, il y avait beaucoup de suiveurs, la peur des représailles. Donc on regonfle aussi leur estime d'eux-mêmes, ils retrouvent une liberté, ils n'ont plus peur des représailles. Et aussi parce que des parents nous disent, mon enfant est harceleur, aidez-nous à l'aider.
Un portrait de Marion en noir et blanc est accroché au mur. Nora Fraisse compte bien ouvrir d'autres maisons. Des départements sont déjà demandeurs.
Il y en aura partout. Il faut y croire.
L'association se charge aussi de former les enseignants et les élèves ambassadeurs contre le harcèlement.
Punaise, sauver des vies, on n'est pas des poucaves. Hein. Dénoncer, alerter, c'est être un héros aujourd'hui.
Reportage signé Marie Guerrier pour RTL. C'est une question qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Où est Peng Shuai, la joueuse chinoise portée disparue depuis une quinzaine de jours après avoir accusé d'agression sexuelle un ancien dirigeant du régime de Pékin? Le mail dévoilé hier par un média d'État dans lequel elle expliquerait avoir pris du repos et contesté ses accusations n'a rassuré personne.
D'ailleurs, Isabelle Langer, il a fallu du temps, mais petit à petit, le monde du tennis se fait entendre.
Oui, à l'instar de Novak Djokovic, la japonaise Naomi Osaka s'est dite aujourd'hui choquée par la situation. Le patron du tennis féminin, Steve Simon, a lui menacé de boycotter le circuit chinois qui lui rapporte pourtant une petite fortune. Pour Alizé Cornet, il faut continuer à se mobiliser.
On sait, en Chine, la censure est forte et faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher avec nos petits moyens parce que finalement, on n'a que les réseaux pour ça, mais on ne sait jamais jusqu'où ça peut remonter et on ne peut pas la laisser tomber, quoi. C'est pas possible humainement.
Nicolas Mahut a lui interpellé Thomas Barr, le président du Comité international olympique. Vous ne vous sentez pas concerné, lui a écrit Mahut sur Twitter. Pour le moment, ni le CIO ni le comité français n'ont réagi sur le dossier. Un dossier diplomatique, certes, mais qui ne doit laisser personne indifférent, surtout à moins de 3 mois des JO d'hiver à Pékin.
Isabelle Langer pour RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec ces deux petites bouilles adorables qui ont 3 mois et demi et depuis quelques minutes, on connaît les prénoms des jumelles panda nées en août dernier aux eaux de Beauval. Des prénoms que nous dévoile ce soir la directrice déléguée de Beauval, Delphine Delors.
Juan Lili et Yuan Doudou. Ces deux prénoms ont été votés par plus de 122 000 Français qui se sont connectés sur notre site pour choisir les prénoms. Ils sont tous les deux très jeunes. Ils ont 17 ans pour Giachi, 22 ans pour Kylian. Ils portent tous les deux pour leur génération ce message fort de préservation de la biodiversité qui, je crois d'ailleurs, est un message très fort pour cette jeune génération qui nous suit.
Delphine Delors au micro RTL de Christian Ponvert. Une cérémonie en présence du parrain, notamment Kylian Mbappé.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps maintenant avec vous, Peggy.
Une France
demain.
Coupée en deux, demain encore bien nuageux
toute
la journée.
Oui.
Et oui, et les nuages, c'est pour qui ? La moitié nord, évidemment, avec un peu
suspense.
De bruine, sans suspense, exactement, avec un peu de bruine localement. Ça va durer toute la journée entre le Nord-Bretagne, les Hauts-de-France, la région parisienne et les frontières du Nord, mais également dans le Val-de-Saône l'après-midi. Sinon, dès le matin, plein soleil quand même dans le sud, entre les Pyrénées, le sud du Massif central, les Alpes, le Jura et la Corse. Partout ailleurs, beaucoup de grisailles matinales, de nombreux brouillards, mais une fois tout ça dissipé, il fera beau sur les deux tiers sud du pays. Les températures, elles seront fraîches le matin avec quelques gelées, moins 1 à Nevers, 1 à Mulhouse, Limoges, Tarbes. Mais 7 degrés à Paris et 11 à Nice, c'est les maximales. De 7 à Ambérieu, à 19 à Toulon, 12 à Paris, 13 à Toulouse et Cherbourg et 19 degrés à Marseille.
Merci Peggy. Une petite pause dans RTL Soir et puis ensuite l'événement. Vous allez pouvoir échanger, discuter avec Olivier Véran. Profitez-en, le ministre de la Santé va répondre à toutes vos interrogations au 32-10 au moment où la 5e vague s'installe dans notre pays. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
18h16, bonne fin de journée avec RTL. RTL Soir plus que jamais à vos côtés. Vous vous posez sans doute beaucoup de questions sur la reprise de l'épidémie. Profitez-en. Ce soir, ces questions, vous pouvez les poser directement au ministre de la Santé. Bonsoir Olivier Véran.
Bonsoir.
Merci d'être notre invité. Au moment où cette 5e vague dont on parle tant s'installe dans notre pays, on va prendre le temps ce soir sur RTL de balayer les sujets d'inquiétude des auditeurs. Déjà, quand on regarde les chiffres, hausse des cas exponentielle, plus 40% en une semaine. D'ailleurs, est-ce que vous avez les chiffres de contamination du jour ?
Oui, c'est à nouveau un peu plus de 20 000 contaminations en 24 heures, ce qui fait qu'on est dans une hausse de quasiment 50% sur une semaine. On voit aussi qu'il y a une hausse des hospitalisations, des réanimations et des décès d'environ 40% là, sur une semaine. Il y a eu un effet rattrapage aujourd'hui des déclarations d'hospitalisation et de cas graves. Donc ça confirme qu'on est dans la cinquième vague. Je regardais ce qui se passait autour de nous parce que d'autres pays ont démarré la cinquième vague avant nous, plusieurs semaines avant nous. C'est le cas de l'Allemagne. Ils ont battu un triste record avec 68 000 contaminations en 24 heures. Et ils ont un taux d'incidence qui est quasiment deux fois supérieur au maximum qu'ils avaient enregistré depuis le début de la pandémie. Donc ça monte. Je regarde que ça a commencé à monter aussi en Espagne et en Italie. Il y a cette espèce de décalage qui est aussi sans doute lié aux conditions météo. Il fait froid un peu plus tard en Italie, en Espagne que chez nous ou qu'en Allemagne.
Pour sauver notre Noël en famille, tout le monde se pose la question, est-ce qu'on va vraiment pouvoir se passer là dans les semaines qui viennent de restrictions ou au moins du retour de jauge dans les commerces, dans les restaurants ?
Ce qu'on regarde, c'est pas le nombre de contaminations aujourd'hui, contrairement aux vagues précédentes. Parce que nous sommes vaccinés. 90% des personnes qui pouvaient être vaccinées l'ont déjà été. Et les autres, je les invite à se dépêcher de se vacciner pour se protéger, protéger les personnes autour d'eux. Et donc, il n'y a plus le même rapport entre le nombre de cas diagnostiqués par jour et les conséquences sanitaires, c'est-à-dire le nombre d'hospitalisations par jour.
Ça veut dire qu'on commencera à penser restrictions si la situation à l'hôpital se détériore.
L'indicateur que nous suivons, c'est le nombre de cas graves, le nombre de décès, le nombre d'admissions en réanimation. Pendant la quatrième vague, déjà, il y a eu cette décorrélation entre les cas graves et les contaminations. Puisque quand vous êtes vacciné, vous avez 12 fois moins de risques d'aller en réanimation et de faire une formogramme. 12 fois moins, ce qui est énorme. Et donc, on voit que pour 50 000 contaminations par jour, par exemple, nous n'y sommes pas, heureusement en France encore, en tout cas, pour 50 000 contaminations par jour, lors des vagues 1, 2 et 3, vous aviez un nombre d'hospitalisations qui était dramatiquement élevé. Aujourd'hui, ce nombre d'hospitalisations est plus faible. Il touche davantage dans les formes graves les non-vaccinés, donc c'est vraiment encore une fois un message de prudence, de vigilance, de mobilisation sanitaire et citoyenne pour les Français qui nous écoutent et qui n'osent pas encore peut-être se faire vacciner, pour celles et ceux qui doivent recevoir un rappel. de vaccination pour être protégé pleinement.
On va en parler de ce rappel. Juste avant, je voudrais revenir sur la situation à l'hôpital, parce que vous l'avez dit, quelque part, cette situation va déterminer aussi la stratégie à mener dans les semaines à venir. Or, on sait qu'il y a des soucis d'effectifs à l'hôpital, ce n'est pas nouveau. 20% de postes vacants, d'après le président du conseil scientifique.
C'est faux, pardonnez-moi. Il faut arrêter de sortir les 20%.
Parce que c'était cette enquête flash du président du conseil scientifique.
Vous répétez que c'est faux, et d'ailleurs, le président du conseil scientifique le dit lui-même. Donc, non, il n'y a pas 20% de lits fermés dans les hôpitaux. Il y a même un peu plus de soignants dans les hôpitaux qu'il y a 2 ans avant la vague Covid, à la même période. Par contre, il y a des soignants qui sont fatigués, il y a des services qui sont sous tension, notamment des services d'urgence avec des difficultés, des reports de vacances qui sont pris aujourd'hui, des heures supplémentaires qui ont été cumulées, et chacun peut le comprendre. Mais l'hôpital est solide, le nombre de lits ouverts permet de faire face à une vague épidémique, mais j'ai envie de vous dire, je ne considère pas la gestion de l'épidémie à travers le prisme hospitalier. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on aurait 200 000 lits de plus ouverts dans l'hôpital qu'on laisserait 200 000 Français faire des formes graves. Ce qu'il faut, c'est protéger la vie des Français. Leur éviter de faire des formes graves.
Vous parliez de personnel fatigué. On va accueillir justement au 3210 une infirmière du côté de Colmar, Valérie, qui nous appelle. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Julien, bonsoir Monsieur le Ministre.
Bonsoir. Cette cinquième vague, vous la ressentez déjà dans votre hôpital et est-ce qu'elle vous inquiète ?
Alors effectivement, nous aussi, on voit une augmentation de 50% des cas de Covid hospitalisés depuis une semaine. Et la crainte que nous avons actuellement, à raison d'une infirmière pour 12 patients et des arrêts maladie qui pleuvent, des personnels soignants qui sont fatigués, usés, démotivés, on craint pour les semaines qui viennent, avec une recrudescence de cas de Covid certainement, mais aussi la grippe et toutes ces maladies saisonnières qui sont à notre porte à l'hôpital. Ouais.
Est-ce que l'hôpital va tenir, Olivier Véran ?
L'infirmière, pardon madame, je ne me souviens plus de votre prénom.
Valérie,
a raison de souligner qu'en plus du Covid, il y a la grippe. En ce moment, il y a la bronchiolite qui percute durement les services de pédiatrie, les urgences, puis au premier chef, les familles d'ailleurs des enfants qui sont concernés. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très attentif, très vigilant, très solidaire. Nous l'avons été depuis bientôt 2 ans. L'hôpital français n'a jamais craqué, contrairement à d'autres hôpitaux de grands pays qui nous entourent. Vous n'avez pas vu des patients avec des bouteilles d'oxygène dans les voitures, des parkings des grands hôpitaux français. C'était pourtant le cas parfois en Italie. Et aujourd'hui, il y a la possibilité que nous soyons amenés, par exemple, à accueillir des patients de certains territoires allemands, considérant la vague épidémique qui est forte. Donc, on est tous solidaires les uns les autres. On fait très attention. On adopte les bons gestes. On aère les pièces. On se lave les mains. On met du gel. On adopte les gestes barrières. On sait comment vaincre ce Covid. On l'a vaincu déjà lors des 4 premières vagues. Donc, on y arrivera là-dessus, on y arrivera sur ce sujet. Et Valérie a raison de souligner ce que je disais tout à l'heure, il y a de la fatigue, de la lassitude, il y a le post-impact de 4 vagues épidémiques qui pèsent sur l'hôpital, qui pèsent aussi sur les morales, donc il faut qu'on soit encore plus vigilant pour protéger nos soignants.
Alors, face à cette vague, l'une des options dont on discute en ce moment, c'est le potentiel retour, en tout cas l'incitation au télétravail. On a vu la Belgique qui s'y remettait justement cette semaine. Ça inquiète les chefs d'entreprise. Tiens, on va accueillir Bertrand qui nous appelle lui de la Meuse. Bonjour Bertrand, bonsoir.
Bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir Julien.
Vous gérez une société dans l'alimentaire. Vous êtes assez effrayé par le télétravail, c'est ça ?
Alors voilà, moi je suis cadre dirigeant de la grosse coopérative MC2 dans la Meuse. Je suis chargé de la branche alimentaire. Alors j'entends qu'on va retourner au télétravail. Monsieur le Ministre, j'entends qu'il faut faire des efforts. Petite info, dans ma filière agroalimentaire, 100% des gens sont vaccinés. Voilà, hurrah. Monsieur le Ministre, moi ce que j'ai peur, vous savez que c'est très difficile de piloter nos entreprises avec du télétravail. Petite info aussi, notre entreprise a mis en place le télétravail au sein de nos 700 salariés, voire 2 jours à disposition des cadres de service. Maintenant, là où j'ai peur, Monsieur le Ministre, c'est que maintenant, ce télétravail, à l'arrivée des fêtes, vous nous imposiez, par la force des choses, un télétravail hebdomadaire. C'est déjà assez difficile de gérer nos sociétés. Est-ce que croyez-vous que dans les semaines à venir, vous allez nous imposer cette semaine hebdomadaire de télétravail ?
Merci Bertrand pour votre appel.
Alors Bertrand, à l'heure à laquelle je vous parle, nous n'avons pris aucune décision et nous n'avons fait aucune, ne serait-ce que pré-annonce.
C'est une option sur la
retour,
table ou
sur un retour du télétravail ? Ça a été une option dans le passé, lorsque nous faisions face à des vagues sanitaires, hospitalières, denses, qui nécessitaient qu'on remette en place des mesures de distanciation sociale. C'était avant la vaccination, et c'est lorsque nous n'avions pas d'autres outils. Aujourd'hui, nous considérons qu'avec le très bon niveau de vaccination dans notre pays, le recours au pass sanitaire, le maintien des gestes barrières, nous avons réussi, au cours de la 4e vague, à éviter un fort impact sur nos hôpitaux. Et la 4e vague, elle est passée assez vite, elle a été beaucoup moins intense que ce qu'elle aurait pu être. Il suffit de regarder dans les territoires ultramarins où la couverture vaccinale était plus faible, et là ils ont une vague qui était très intense. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Les Pays-Bas font face actuellement à une vague extrêmement intense qui a un impact sanitaire qui est important et donc ils prennent un certain nombre de mesures.
Donc pour l'instant,
le Covid est en train de monter chez nous. Je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire combien de cas il va monter. En revanche, j'ai pas besoin de boule de cristal pour vous dire comment faire pour que collectivement on limite l'impact de la vague épidémique
et qu'on enraye cela. Il fallait bien porter le masque dans les sociétés qui avaient du relâchement.
Exactement. Là, vous avez 100% de vos salariés qui sont vaccinés. Bravo. J'imagine que ça a été aussi un travail de conviction collectif et qui était important de mener. Donc, il n'y a pas d'annonce de nouvelles mesures. Il n'y a pas eu de conseil de défense actant des mesures de gestion. On est aujourd'hui extrêmement attentif, vigilant. On regarde la situation. Par contre, je ne vais pas vous dire que j'ai la garantie totale que la vague sanitaire ne puisse devenir plus intense en France. Je vous dis juste qu'à ce stade, nous avons retardé déjà la vague, qui démarre plus tard chez nous que chez tous nos voisins, parce que nous avons une meilleure couverture vaccinale et parce que le pass sanitaire est efficace.
Parlons du vaccin, justement, parce que c'est l'arme numéro un, on l'a bien compris. Au-delà de 65 ans, la troisième dose sera bientôt nécessaire pour garder son pass sanitaire. Début décembre, les 50-64 ans deviendront aussi éligibles. Est-ce qu'ils peuvent déjà prendre rendez-vous et à partir de quand, le 1er décembre ?
L'ouverture de la vaccination aux 50-64 ans sera faite lorsque nous aurons eu tous les retours des autorités sanitaires, et ce sera le cas dans les tout prochains jours. Elle commencera à compter début décembre. De toute façon, les 50-64 ans, pour la plupart d'entre eux, seront à 6 mois de leur dernière injection, à compter du mois de décembre. Donc ils pourront prendre rendez-vous. Pas de stress. Il y a encore 1000 centres ouverts sur le territoire national. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de médecins, de pharmaciens, d'infirmiers libéraux qui vaccinent. Nous avons enregistré cette semaine la plus forte commande jamais atteinte de vaccins contre le Covid par les libéraux. Quasiment 1,5 million de doses, 1,2 ou 1,3 million de doses de vaccins ont été commandées sur une semaine. Donc les points de vaccination, il y en a absolument partout sur le territoire. Donc il n'y aura aucun délai à redouter pour se faire vacciner au bon moment.
Et est-ce qu'il y aura une expiration à terme du pass sanitaire pour cette classe d'âge 50-64 ans si le rappel n'est pas effectué ?
Nous laissons du temps aux 50-64 ans pour se faire vacciner. Nous examinerons la décision d'intégrer la troisième dose au pass sanitaire à l'aune de la situation épidémique. S'il y a une épidémie qui est très forte, avec une couverture vaccinale en rappel insuffisante chez les 50-64 ans, il serait assez logique de l'intégrer au pass. Si à l'inverse, nous avons vaincu la cinquième vague et que les 50-64 ans, les quinquas, se font massivement vacciner, peut-être que ce ne sera pas nécessaire. Nous verrons vraiment en temps voulu. En tout cas, ce ne sera pas tout de suite si ça devait être le cas.
On a une question au 3210 de François qui nous a laissé un message depuis Versailles. Écoutez-le.
J'ai 30 ans, je n'ai pas de raison de faire ce rappel du vaccin, mais néanmoins j'aurais voulu savoir quand est-ce qu'il serait possible de réaliser ce rappel.
Ça, c'est un peu la question de fond. Est-ce qu'il ne faut pas élargir à tous la troisième dose, comme c'est le cas par exemple en Israël ?
Qu'est-ce qu'un rappel de vaccin ? Un rappel de vaccin, c'est une nouvelle exposition à une partie du virus où on vous fait à nouveau fabriquer des anticorps, des armes qui luttent contre le virus, qui empêchent le virus de rentrer dans l'organisme. On vous l'apprend une première fois avec la première injection, une deuxième fois avec le rappel de vaccin, et vous êtes équipé, vous êtes paré, votre organisme peut fabriquer des anticorps si jamais le virus rentre. Au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, au moins 6 mois, s'agissant des personnes les plus âgées, qui ont un système immunitaire qui est plus fragile et qui a un peu moins de mémoire, on vous injecte à nouveau un vaccin pour vous réapprendre, c'est un nouvel entraînement, pour que vous soyez hyper préparé si un jour le virus arrive. Pour les personnes qui sont plus jeunes, le système immunitaire, il a une mémoire qui est un peu plus longue et un peu plus importante. Donc pour l'instant, on est à quelques mois seulement de la vaccination des trentenaires, parce que cette personne a 30 ans. Si dans la durée, nous voyons qu'il y a une baisse d'immunité, une baisse de la protection, de la mémoire de l'organisme pour fabriquer des anticorps qui étaient observés chez les gens de 30 ans,
pourquoi
à ce moment-là, très naturellement, on dira aux gens, on vous invite à recevoir un rappel. Mais pour l'instant, je n'en ai pas la démonstration scientifique. Il y a très peu de pays qui ont généralisé la vaccination à toute la population, et ça nous permet aussi les retours d'expérience de ces pays nous permettent aussi de prendre les bonnes décisions au bon moment.
Juste un mot justement sur ce rappel, ce booster, comme disent les anglo-saxons. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, explique que cette troisième dose offre une réponse immunitaire, je le cite, 10 fois plus forte que la deuxième. Ça, c'est un argument quand même très vendeur. C'est le cas ?
Le booster de vaccin, c'est-à-dire le rappel de vaccination, vous remet à un niveau de protection, vous réapprend à votre organisme à fabriquer des armes contre le virus. Mais quand vous sortez de la deuxième injection, quand vous êtes à quelques jours de la deuxième injection de vaccin, votre organisme, il est au taquet. Il sait fabriquer les armes. Et si le virus arrive, bam, il l'empêche de rentrer. Dans la plupart des cas, il peut parfois rentrer, hélas. C'est pour ça que c'est pas une protection à 100% qui est conférée par le vaccin, même si ça vous protège des formes graves. Et donc, quand vous mettez un booster, un nouveau vaccin, vous réapprenez à votre système immunitaire. L'immunité peut parfois être encore un peu supérieure à celle qu'on peut avoir après les deux premières doses. Mais de toute façon, on est déjà dans des niveaux d'immunité qui sont de l'ordre de 80 à 90%, voire plus, selon les vaccins qui sont injectés. Donc, on a un niveau de protection conférée par ces vaccins qui est inégalé quasiment dans l'histoire de la vaccination. C'est une chance. C'est une chance. C'est pas une protection à 100%. Et notamment, ça n'empêche pas à 100% la circulation du virus. Mais si nous étions à 100% vaccinés, le virus aurait beaucoup plus de mal à circuler. Il circule, il utilise nos failles, le virus. Et il y a encore 10% d'entre nous qui, bien que vaccinables, ne sommes pas vaccinés. Et ça, c'est une difficulté, parce que c'est-à-dire que le virus, il trouve où passer, il trouve où se multiplier, et à partir de là, il provoque des vagues épidémiques.
Restez avec nous, Olivier Véran, on marque une toute petite pause, et on revient ensuite avec les auditeurs au 3210 pour prolonger ce dialogue, cet entretien. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h32, vous écoutez RTL et notre grand entretien avec Olivier Véran se poursuit. Le ministre de la Santé qui répond à vos questions ce soir au 3210 au moment où la cinquième vague s'installe dans notre pays. Autre débat des semaines à venir peut-être, Olivier Véran, est-ce qu'il faudra vacciner nos enfants de 5 à 11 ans? On va accueillir Guillaume qui nous appelle au 3210 depuis Lyon et qui souhaite justement vous interroger sur le sujet. Bonsoir Guillaume. Est-ce qu'il est là, Guillaume?
Oui, je suis là.
On vous écoute.
Bonsoir, Julien. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Alors, écoutez, moi, j'ai deux enfants qui ont 6 et 8 ans, deux petites filles. Elles ont retrouvé le masque à l'école il y a une petite semaine, là. C'est vraiment pas agréable pour elles. Après, si jamais. Moi, j'ai été favorable à me faire vacciner immédiatement. Après, pour les enfants, on a tous une petite réticence, mais si jamais vraiment c'est la seule solution pour que nos enfants ne portent plus le masque à l'école. Franchement, on enverra nos enfants se faire vacciner.
On vient d'entendre Guillaume, Olivier Véran. Est-ce qu'on va y venir à la vaccination des petits, ou en tout cas sur la base peut-être du volontariat? On sait qu'aux États-Unis, en Israël, en Autriche, ça y est, ça commence.
D'abord, Guillaume, vous dire que ça ne vous consolera pas, mais moi aussi, j'ai deux enfants qui sont à l'école, qui ont 8 et 11 ans, et qui portent le masque. Et ma fille, notamment, qui est en primaire, ne portait plus le masque parce que le taux d'incidence avait faibli. Puis maintenant, elle doit à nouveau le porter. Donc, je connais cela. Nous attendons le retour en fait de l'évaluation indépendante et transparente de l'Agence européenne du médicament. Les États-Unis, vous avez raison, ont fait cette évaluation déjà, la FDA américaine. Ils ont considéré que le vaccin était à la fois sûr et efficace chez les 5-11 ans et qu'ils pouvaient y aller. Nous attendons l'avis de l'Agence européenne qui a reçu les données du laboratoire, donc ils refont toutes les études pour vérifier que tout est conforme. Ensuite, ça arrivera peut-être vers la mi-décembre. Ensuite, c'est l'autorité française, la Haute Autorité de Santé, puis l'Agence du médicament française, qui, sur la base de cette évaluation, regarderont bien les données, nous diront « voilà les avantages de la vaccination chez les 5-11 ans, voilà éventuellement des risques, s'il y avait des risques ». Et ils font un calcul d'une balance bénéfice sur risque, intérêt individuel pour l'enfant, intérêt collectif pour les enfants, et nous disent « nous vous invitons à ouvrir la vaccination » ou « nous vous invitons à ne pas ouvrir la vaccination ». Je n'ai par définition pas encore cette réponse. Mais ce sera, nous l'aurons d'ici à la toute fin d'année ou tout début de l'année 2022.
Vous suivrez cette réponse ou alors vous évaluerez à ce moment-là le bénéfice-risque? L'Académie de médecine, par exemple, dit que ce sera nécessaire pour les enfants à risque de forme grave ou qui vivent avec des personnes vulnérables.
Vous savez, avant de commenter, j'attends encore une fois d'avoir les données. Je ne prendrai aucun risque avec la santé des Français, je ne l'ai jamais fait. Et vous avez vu que nous avons avancé progressivement. Le début de la vaccination, ça a été d'abord les personnes âgées en EHPAD, parce que c'est là qu'il fallait sauver le plus de vies. Et ensuite, on est allé aux octogénaires, et ensuite, les personnes de 65 ans et plus, et on est descendu progressivement. Au fur et à mesure que les données nous permettaient d'être convaincus que le vaccin était sûr et qu'il était efficace. J'attends d'avoir ces informations sur les enfants. Mais si on nous dit, vous pouvez y aller, il n'y a pas de complications à la vaccination, ça protège, ça évite les transmissions, ce serait évidemment une bonne nouvelle qu'il faudrait recevoir comme telle. Il y aura peut-être des inquiétudes qu'il faudra lever et la communauté scientifique, dans ce cas-là, se mobilisera. Si à l'inverse, on nous dit c'est à voir, je n'ai pas encore la réponse. Donc très sincèrement, j'attends cela avec la même patience que Guillaume.
Guillaume, justement, il nous parlait de l'école. Vous avez un chiffre des classes fermées? On voit les indicateurs qui augmentent partout. On imagine que le nombre de classes fermées augmente aussi, non?
Ça fluctue, ce chiffre. Donc je n'ai pas encore le chiffre là à date de cette fin de semaine. Je ne peux pas vous le transmettre comme ça, mais Jean-Michel Blanquer, le ministère de l'Éducation nationale, communique régulièrement sur le nombre de classes ou le nombre d'écoles, sachant qu'en plus, il y a des départements dans lesquels, vous le savez, nous avons expérimenté le fait de tester tous les enfants lorsqu'il y a un cas positif pour éviter de fermer la classe.
Juste un mot de l'actualité toute chaude. On vient d'apprendre, là, Angela Merkel, à l'instant, on n'a pas plus de détails, je ne vous le cache pas, Olivier Véran. Angela Merkel, la chancelière allemande, indique que l'Allemagne va introduire des restrictions pour les non-vaccinés. On sait que l'Autriche a confiné les non-vaccinés. Bon, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, la situation allemande n'a rien à voir aujourd'hui avec la situation française. Mais si la situation venait à s'aggraver chez nous, c'est une option que vous avez en tête, qui est sur un coin de la table, faire une distinction entre les vaccinés et les non-vaccinés ?
En France, nous avons fait très, très tôt le choix du pass sanitaire. Nous avons été l'un des premiers pays européens à le faire. On a pu nous le reprocher, notamment au Parlement. Je rappelle que l'ensemble des oppositions s'est opposé très farouchement au pass sanitaire et à son maintien dans la durée. Nous avons fait le choix, en responsabilité, la majorité du président a fait le choix de maintenir ce dispositif autant qu'il était nécessaire de le maintenir pour nous protéger. Ce que je constate, c'est que des pays qui n'avaient pas mis de telles mesures, aujourd'hui prennent des mesures qui sont parfois plus drastiques. L'Autriche, effectivement, qui décide quasiment d'un confinement des non-vaccinés, donc un pass vaccinal plus. L'Allemagne va probablement adopter le même type de stratégie, mais il n'avait pas de pass sanitaire. La Suède, qui n'avait pas de pass sanitaire, vient d'instaurer un pass vaccinal pour tous les événements supérieur à 100 personnes. La Suède, qu'on citait comme étant le modèle, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un modèle, mais en tout cas l'exemple du pays européen qui ne mettait pas de mesures de restriction. Le pass vaccinal. Je rappelle qu'en France, vous avez toujours la possibilité, si vous n'êtes pas testé, si vous n'êtes pas vacciné, de vous faire tester avant de rentrer dans un établissement qui reçoit du public et qui exige le pass. Je vous dis juste, fort de l'expérience de la quatrième vague, nous avons pu, avec les outils qui sont actuellement déployés, vaincre la quatrième vague. Donc, regardons comment les choses se passent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des options qui sont possibles en cas de situation sanitaire qui nous échapperait, mais on a toujours agi en proportionnalité, territoire par territoire, en fonction de la situation sanitaire. Nous continuerons à le faire.
Ce grand entretien se termine. Merci Olivier Véran, merci ministre de la Santé, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL et d'avoir pris le temps surtout de répondre aux interrogations, aux inquiétudes des
Et allez vous faire vacciner contre la grippe aussi, si vous êtes appelé à vous faire vacciner. Grippe et Covid, moi j'ai eu les deux, j'ai eu la troisième dose et la grippe en même temps, ça s'est très bien passé.
Tout va bien, je votre biceps va bien.
Protégé, les deux.
Parfait. Une pause et ensuite RTL Soir continue, on va défaire le monde. Vos 20 minutes de curiosité garantie avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier. Tiens, d'ailleurs, on va aborder un sujet qui va sans doute vous intéresser, qui doit vous préoccuper, le ravage des gaz hilarants dans les soirées étudiantes.
Ah oui, le protoxyde d'azote. Oui.
Exactement. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.